Alors, j'ai intitulé cette intervention « Parler de l'islam dans la presse écrite après les attentats de janvier 2015 », une enquête textuelle du journal Le Monde. Alors, l'objectif de cette intervention et de cette recherche, c'est la contextualisation sociologique des acteurs qui ont participé et qui ont organisé d'une certaine manière le débat public après les attentats de Charlie Hebdo et aussi les attentats contre l'hypercacher deux jours après. Notre but, c'est de développer une série de questions à partir de ces débats, en se rapportant des sujets sur la religion, sur la laïcité, etc. Alors, le cadre de cette recherche, c'est le projet ERC, c'est-à-dire le projet financé par the European Council Research, Mobilizing for Democracy, qui est dirigé par la professeure Donatella Della Porta. On a commencé à l'Institut universitaire européen, on a déménagé à l'École normale supérieure. Et voilà, c'est son projet Mobilizing for Democracy, et nous, on travaille sur la sous-section du projet Charlie Hebdo and its aftermath in the public debate. Alors, le projet il est en cours, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui des résultats finaux, mais plutôt des résultats préliminaires. Mais quand même, ces résultats pourront ouvrir des voies pour faire des réflexions, pour formuler des hypothèses, et j'aimerais bien avoir votre feedback aussi. Alors, on mène des enquêtes quantitatives dans des articles des 5 journaux dans 5 pays européens qui sont la France. Moi, j'ai travaillé sur le cas français, mais on inclut l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et le Danemark, qui est bien représenté aussi aujourd'hui. Et on procède à des enquêtes quantitatives, on fait des analyses textuelles et des cadrages, c'est-à-dire un framing analysis, mais aussi content analysis. Et on a aussi une partie qualitative qui fait référence à des organisations et des mouvements sociaux mobilisés sur le terrain. On fait une enquête sur les mouvements d'extrême gauche, d'extrême droite, on fait sur les organisations religieuses, etc. Et on travaille sur les discours qui ont produit après les attentats. Et alors, l'objectif, comme je vous ai dit, pour l'intervention d'aujourd'hui, fait référence seulement à la première partie de notre recherche, qui est plutôt la partie quantitative. Alors, je vais vous présenter quelques données empiriques qu'on a pu extraire à partir de l'analyse du journal Le Monde. Alors, le cadre de l'analyse pour aujourd'hui, c'est la suite immédiate après les attentats, c'est-à-dire les 7 premiers jours qui ont suivi les attentats. À partir du 7, c'est-à-dire Le Monde publie les 8, jusqu'au 14. Alors, il s'agit d'une présentation exhaustive des actes verbaux, mais aussi des actes physiques des acteurs, comme ils ont été récités dans le journal Le Monde. Et je vous explique tout à l'heure ce que je veux dire par acte verbal et acte physique. Bon, et la focalisation, c'est le cadrage que portent les acteurs sur l'islam et les communautés musulmanes. C'est-à-dire que d'abord, je vais vous présenter une overview plus complète du débat. Et après, on va essayer de limiter notre regard sur l'islam en tant que tel. C'est-à-dire comment les acteurs ils ont parlé de l'islam après les attentats. Alors, la structure de la présentation pour aujourd'hui. D'abord, je vais vous présenter un peu notre méthodologie du projet. Par la suite, je vais contextualiser le journal Le Monde, c'est-à-dire on va voir pourquoi on a choisi Le Monde et pas un autre journal. Troisièmement, je vais vous présenter les premiers résultats descriptifs de cette analyse textuelle, avec une focalisation particulière sur l'islam. Et je vais conclure avec quelques hypothèses que je voudrais discuter avec vous. Si je suis très rapide, vous me dites, parce que j'ai la tendance de parler un peu vite. Bon, merci. Alors, en commençant par la méthodologie, comme je vous expliquais, aujourd'hui, on va parler plutôt de la méthodologie quantitative, c'est-à-dire que déjà depuis le matin, je suis content de savoir qu'il y a beaucoup de collègues qui travaillent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils procèdent à des analyses textuelles, des journaux. Nous, on suit une approche, disons, plus limitée, à ce qu'on appelle Political Claim Analysis, qui était une méthode développée par Koopmans et ses collègues. Et c'est une méthode qui est utilisée, si vous voulez, plutôt pour repérer les actions protestataires dans l'espace public et la manière dont le média les récite. cas d'étude, la France, le monde, la période de 7 jours après les attentats. Et les objets de notre analyse, ce sont les claims, ce qu'on appelle les claims, que malheureusement, je ne sais pas comment bien traduire en France. Revendication, mais aussi, ça peut être aussi un acte physique, c'est-à-dire ça peut être un acte terroriste, ça peut être un claim, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, réclamation, revendication verbale ou des actes physiques. Avec des significations politiques. On s'intéresse plutôt aux claims politiques qui font les acteurs sociaux dans l'espace public. Alors, comment on extrait ces revendications en procédant à une analyse textuelle de tous les articles. C'est pour ça que je parle d'une analyse exhaustive. On analyse tous les articles du journal Le Monde qui contiennent un groupe de mots qu'on a préalablement défini. Ces mots portent sur les attentats, sur l'islam, l'immigration, la laïcité. Ainsi, nous développons, disons, un paragraphe avec des mots qu'on met dans les logiciels LexisNexis qu'on utilise. Et le LexisNexis, il nous extrait tous les articles du monde de cette période qu'on a définie avec, qui contiennent au moins un de ces mots qu'on a préalablement défini. Et alors, par la suite, on procède à une analyse systématique de tous ces claims qui présentait, voilà, j'ai traduit ça, analyse politique des revendications pour political claim analysis. Et les claims qu'on restitue par les articles du Monde, bah, juste pour, à titre d'exemple, dans un article du Monde, on peut avoir 5 claims, c'est-à-dire on peut avoir 5 acteurs sociaux différents qui parlent et qui font une intervention dans l'espace public. Alors, on code 5 claims. Alors, ces claims, on les met dans une base de données qui est aussi, disons, traversée par des différentes variables. C'est-à-dire que pour chaque claim, on est intéressé par une série de choses. Par exemple, à l'acteur sujet, qui fait le claim? À la description, on décrit, ça c'est plutôt une des parties qualitatives aussi, les groupes d'appartenance de cet acteur. La personne, les genres, le sujet, l'acteur objet, c'est-à-dire qui va être affecté par ces claims, l'adresser, c'est-à-dire à qui ces claims s'adressent, le cadrage, mais aussi la qualité de délibération, c'est-à-dire comment l'argument est structuré. Alors on est, si vous voulez, dans une approche en même temps constructiviste, parce qu'on s'intéresse beaucoup quels sont les acteurs sociaux qui font des interventions dans l'espace public, mais en même temps pragmatique aussi, parce qu'on s'intéresse à l'argument et la manière dont l'argument est déployé dans la sphère publique, mais aussi la manière dont l'argument est restitué par les médias pour... restitué par les médias. Alors, ici, je vous donne un peu... juste pour te dire que la political claim analysis a été déjà utilisée dans d'autres projets comparatifs, surtout, ça permet d'analyser de larges bases de données. Alors... Et du coup, pour chaque pays, on a choisi un journal, ce qu'on appelle le journal de référence. Alors, je vous explique. Pour la France, on a choisi Le Monde. Pour l'Angleterre, The Guardian. Pour l'Italie, La Repubblica, etc. Après, la justification pour ça, c'est le fait qu'on s'intéresse à la manière dont un journal est considéré comme légitime dans l'espace public dans lequel il existe. Et c'est vrai que Le Monde, c'est un acteur médiatique qui a pas mal de légitimité en France et que, comme Pierre Bourdieu même disait, qu'une fois que Le Monde met quelque chose dans le débat, les autres journaux, plus ou moins, sont obligés de suivre ce débat. Et en plus, il est constaté que, je pense pas en France, mais en Europe surtout, que les journaux de centre-gauche, disons, les journaux libéraux de centre-gauche, ont plus de tendance de parler de sujets sur l'immigration, sur l'islam, etc. Bon, ça c'est aussi à questionner après ce qu'on a entendu aujourd'hui. Alors, Le Monde porte des conséquences importantes dans le champ médiatique et... Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est en fait une remarque très, très, très intéressante, à mon avis, c'est le caractère autoréférentiel du Monde. C'est-à-dire que, comme on va se voir plus tard, la plupart des claims sont faits par les journalistes du Monde. Je vous explique ce que je veux dire par là. Alors, on observe un métadébat, c'est-à-dire que Le Monde, il va reprendre les mêmes claims qui ont été utilisés par d'autres acteurs ou par d'autres journalistes pour les reproduire et recréer de nouveaux articles. Alors, on est dans ce processus de méta-débaptisation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pris pendant les 7 premiers jours? Qu'est-ce qu'on voit empiriquement parlant? On a 141 articles qui contiennent 469 claims. Alors, 75% de ces claims, là on est dans les claims, sont faits par des acteurs qui agissent dans le territoire français et 15% dans un autre pays. Pour les restes, ce qui reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu préciser. En ce qui concerne les types d'actions de chaque claim, alors presque 68% des actions sont des déclarations verbales. Ici, on voit aussi, si vous voulez, la manière dont les médias, ils aiment bien reproduire des déclarations verbales que des actes physiques. Et 6% sont des actes politiques exécutifs, c'est-à-dire introduction des lois, mesures antiterroristes, etc. Et 3,6% sont des actes violents. Parmi les actes violents que le Monde reproduit pendant les 7 premiers jours, sont plutôt, il faut le dire, des actes islamophobes, c'est-à-dire des actes contre les mosquées ou contre les magasins tenus traditionnellement par des musulmans. Par exemple, on a eu pas mal de vandalisme de mosquées ou de magasins kebab, etc. Ça, le Monde reprend. Mais cependant, ce qui reste majoritaire, c'est les déclarations verbales. C'est à ça que s'intéresse beaucoup le journal. Alors, c'est quoi le prototype d'acteur qui fait un claim après Charlie Hebdo? C'est un homme qui appartient à une organisation en France et qui représente un média. Alors, je vous explique. Sociologiquement parlant, on a pu codifier si l'acteur du claim, c'est un homme, une femme ou un collectif sans nom. Alors, je peux vous dire que 85,6% des acteurs sont des hommes. Mais attention, ça ne veut pas dire que les 15% qui restent, c'est des femmes. Pourquoi? Parce qu'on a codé beaucoup de collectifs aussi. Les collectifs n'ont pas de nom. Les organisations, quand il faut un press release, n'ont pas de nom. Alors, les femmes qui restent, c'est très peu. Et parmi ces femmes qui restent, il y a Marine Le Pen, qui est beaucoup citée, mais aussi Angela Merkel. Alors, ça, on a quelques indications sociologiques par rapport à ça. Alors, par rapport au type d'acteur, 64,2%, ils sont membres d'un groupe, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un groupe. Par exemple, quand François Hollande fait un statement, on les considère comme membres du Parti socialiste. Alors, on les code comme membres d'un groupe. 22% sont des collectifs, 13% sont des individus. Des individus, ça peut être des artistes, des intellectuels, etc. Et parmi ces acteurs, alors 24% appartiennent à un média, c'est-à-dire que soit c'est un journaliste du Monde, soit ça peut être un journaliste du Figaro qui parle, ou ça peut être un journaliste d'un média étranger. Il faut dire aussi que le Monde, pendant les premiers jours, il a beaucoup cité les collègues d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils se sont intéressés à comment les débats se déroulent dans les autres pays, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais aussi aux pays arabes. Alors, 20% des acteurs qui expriment une position ou qui font un acte, parce qu'on a codé aussi les actes islamophobes, on les a codés comme appartenant à l'extrême droite. Alors, 20% sont l'extrême droite, qui peut être les partis politiques, c'est-à-dire les Front National, mais aussi les partis politiques d'extrême droite européens. On a eu pas mal d'articles aussi sur ça, mais aussi des mouvements, c'est-à-dire le mouvement Pegida en Allemagne, on l'a codé comme organisation d'extrême droite. 15%, c'est les gouvernements, c'est les représentants des gouvernements et de l'opposition. Alors, ça, c'est plutôt PS, UMP en France. À l'époque, c'était encore UMP. 7,5% sont des organisations religieuses. On a les représentants des mosquées, on a quelques organisations juives aussi qui prennent la parole. 3,6%, c'est la police et l'armée. Pour la police et l'armée, c'est pas toujours des déclarations verbales, ça peut être aussi des actes exécutifs qu'ils ont pris. Par exemple, les militaires qui se déploient autour d'une école juive, par exemple. On a aussi des experts et des intellectuels autour de 3,2%, des terroristes. Les terroristes, comme vous pouvez l'imaginer, ils ne font pas de déclarations verbales dans la presse, mais ils font des actes. Alors, on code les actes. Et 0,9% la justice. Alors, par rapport au thème abordé, pour chaque claim, on a une hiérarchisation des thèmes, c'est-à-dire qu'on code le thème principal, mais aussi on code les autres thèmes abordés. Comme ça, on évite le fait que chaque claim a juste un... Comment je peux vous dire ? On nuance le contenu d'un claim. Alors, et là, je vais vous parler juste des thèmes principaux qui ont été abordés dans chaque claim. Alors, la sécurité, et ça, c'est une découverte que moi, au moins personnellement, ça m'a surpris, je n'attendais pas, ça compte pour 32,9%, c'est-à-dire qu'un claim sur trois environ porte sur la sécurité. Sécurité intérieure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prendre plus de mesures antiterroristes ou est-ce qu'il ne faut pas prendre de mesures antiterroristes? Est-ce qu'il faut une coopération militaire dans l'Union européenne ou non? Est-ce qu'il faut une guerre ou non? Ça, c'est 1 sur 3. Après, 21%, c'est « Je suis Charlie », c'est-à-dire expression de solidarité vis-à-vis Charlie, les identifications au slogan aussi, 13% fait référence au racisme, 12% à l'islam en tant que religion et 0,7% à la laïcité. On voit que la laïcité, comme, je répète, comme thème principal, n'est pas très largement discutée pendant les 7 premiers jours après les attentats. Alors, là, parmi ces thèmes, je voudrais juste maintenant vous donner un exemple. Je prends l'islam comme exemple. Quels sont les acteurs qui ont parlé de l'islam après les attentats? Ou pour me reformuler la question, quels sont les acteurs qui se sont donné la voix dans le monde pour parler de l'islam? Alors, bon, c'est des hommes, c'est pas surprenant, c'est comme les résultats globaux de l'enquête, mais ici, pour l'islam, il faut dire qu'ils sont surreprésentés, c'est-à-dire que 92% des acteurs qui parlent de l'islam sont des hommes, et les femmes constituent environ le 3%. Alors, par rapport aux acteurs qui parlent de l'islam, on a pu voir que 15% des acteurs sont des acteurs religieux. Pardon ? Ah, pardon. Alors, 15% sont des acteurs religieux. Quand on dit acteurs religieux, ça peut être les représentants d'une mosquée, les imams, ou même des représentants des organisations islamiques, etc. Ces résultats sont plus élevés par rapport aux autres thèmes du débat, mais ils restent cependant relativement faibles si on prend en considération le fait qu'on parle de l'islam, mais les représentants religieux comptent juste pour 15%. L'extrême droite participe dans le débat sur l'islam, mais moins activement que par rapport aux autres thèmes, surprenant aussi, 12%, l'extrême gauche autour de 13%, et la première catégorie représentée pour parler de l'islam, c'est les journalistes et les médias, autour de 22,4%. Alors, les experts sur l'islam deviennent les journalistes pendant les premiers jours. Et là, je voudrais aussi nuancer les propos pour essayer de voir quand on dit islam, ce qu'on veut dire. Alors, on a construit des catégories. On a construit des catégories pour nous permettre de faire des points analytiques un peu plus ciblés. Alors, on a construit la catégorie islam radical, c'est-à-dire on voulait voir si, quand les acteurs font référence à l'islam, de quelle manière ou dans quelle mesure ils font référence à un islam radical. Alors, et dans cette catégorie, on a compté les condamnations de l'islam radical, qui comptent pour le 21,8%. Et dans la condamnation de l'islam radical, on a pu observer deux canaux discursifs. D'abord, on peut dire qu'il y a les acteurs qui lient islamisme et islam, explicitement, ils ne font aucune différence. Et il y a aussi une autre approche, un peu plus nuancée, qui fait la différence entre l'islam modéré, on peut dire, et un islam radical. Par contre, il faut dire aussi que quand les acteurs parlent d'un islam radical, on n'est jamais, on ne sait pas de quoi parle. Alors il y a cette confusion terminologique dont tu parlais tout à l'heure. Dans le média, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Alors, je vous donne quelques exemples. On a le prêtre de la communauté catholique Saint-Martin, par exemple, qui dit que les attaques contre Charlie Hebdo visaient la liberté d'expression, et lui-même, il avance aux distinctions entre islamisme et islam, en considérant l'islamisme comme dangereux, mais l'islam comme une religion. Mais d'un autre côté, François Fillon, il déclare que les leaders musulmans devraient mobiliser afin d'éradiquer le fondamentalisme qui instrumentalise la religion musulmane. Ici, vous pouvez voir dans cette déclaration que la nuance entre islam modéré et islam radical n'est pas très bien opérée. Alors, il nous laisse entendre qu'il y a un lien entre, il y a même un lien fort entre l'islam modéré et l'islam radical. Alors, 15,2% des claims qui portent sur l'islam font une évaluation générale de l'islam en tant que religion. C'est-à-dire que les acteurs, ils essayent d'avancer des définitions sur ce qu'est l'islam. Et ici, par exemple, je vous donne un exemple négatif, c'est le parti d'extrême droite néerlandais PVV, et Geert Wilders, qui dit que l'islam est une idéologie qui menace nos libertés. Alors ici, vous voyez, il essaye de trouver d'attribuer une identité ontologique à l'islam, en demandant plus de mesures de sécurité, etc. Et par contre, d'une autre approche, on a le maire du Qatar, Khalifa, qui déclare que ces terroristes n'ont pas de religion. Alors ici, on voit une distinction nette entre le terrorisme et l'islam. Alors, 14,7% des claims qui portent sur l'islam sont des attaques verbales ou des attaques physiques. Ici, c'est plutôt des actes de violence sans justification verbale. Par exemple, quand Le Monde nous dit que hier soir, la mosquée de, je sais pas, de X endroit a été attaquée ou a été vandalisée. Ça, c'est un acte aussi qu'on compte dans notre enquête. Ou la mise en flamme des Corans pendant la manifestation du 11 janvier. Ça aussi, c'est un acte physique. Voilà, d'autres exemples ici, musulmans dehors, on n'aura pas décalé. 13% portent sur l'incompatibilité de l'islam avec l'Occident. Ça, pour être honnête, on aurait attendu un peu plus, vu que les débats sur l'islam en Europe actuellement portent sur cette supposée incompatibilité. Alors ici, on a compté les manifestations et rassemblements de Pegida en Allemagne, mais aussi dans les autres pays européens. Je vous rappelle qu'après les attentats, il y avait une pléthore de rassemblements anti-islam, surtout en Allemagne. Mais d'un autre côté, on peut avoir des approches plus nuancées. Par exemple, l'article de Jean Birbaum dans Le Monde, qui est un collaborateur du Monde, qui tente une généalogie de l'islamophobie dans la cause française. C'est son article « On a tué Charlie et la gauche antiraciste avec ». Voilà. Ici, Birbaum nous explique justement que cette incompatibilité n'existe pas vraiment. Alors, voilà, vous voyez une approche un peu plus nuancée. Par contre, l'incompatibilité de l'islam avec l'homosexualité ou avec notre mode de vie, on n'a trouvé aucun claim qui porte sur cela, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on aurait attendu, par exemple, aux Pays-Bas, ça, c'est le droit des femmes, homosexualité, etc., ça joue beaucoup quand on veut parler mal de l'islam. Ça, pendant les premiers jours, dans Le Monde, on n'a pas trouvé. Alors, en ce qui concerne l'islamophobie, 11% des claims portent sur l'islamophobie et sur la discrimination institutionnelle des musulmans, je répète, soit positivement, soit négativement. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vont dire qu'il n'y a pas d'islamophobie. D'accord ? Ça, on compte aussi. Parce qu'on attribue aussi on a une autre variable, on attribue des values, c'est-à-dire on attribue des estimations de positivité ou de négativité par rapport aux claims. Alors, par exemple, ici, on peut inclure le mouvement « Je ne suis pas Charlie » qui a été développé sur Facebook et qui, je cite Le Monde, que ce mouvement exprime son horreur pour ce qui va arriver à la communauté musulmane. Alors, l'expression de la peur par rapport à ce qui va arriver chez les musulmans, on compte comme islamophobie. Ou même la déclaration du fondateur de Ouma.com, qui est un new site de la communauté musulmane, qui dit qu'il y a peur que la stigmatisation des musulmans sera égale à celle des attaques. Alors, quelles sont les conclusions après ces résultats très descriptifs? Bon, les questions à poser, et j'aimerais bien le mettre aussi dans la discussion aujourd'hui, c'est d'abord quel type de discours on porte sur l'islam après les attentats et si vous voulez après des événements dramatiques et des événements qui ont mobilisé une émotion nationale très forte, comment l'effet religieux est-il présenté dans les médias après les attentats? Alors après, moi, ce que je trouve en tant qu'un regard critique sur les discours des médias, c'est est-ce que les dispositifs, c'est-à-dire une évaluation de l'islam modéré et la condamnation de l'islam radical. Est-ce que ce n'est pas un continuum de discrimination encore? Est-ce que je me demande si l'évaluation de l'islam modéré, c'est pas aussi une manière cachée de dire, d'insulter une fois encore l'islam? Par exemple, je me demande, et là j'utilise l'approche de Rajat et Mohamed qui parlent de la sociologie de l'islamophobie et comment l'islam est présent dans les médias. Et au final, j'aimerais conclure avec quand est-ce que l'islamophobie commence à être traitée dans les médias. C'est-à-dire que comme on voit ici, l'islamophobie est le premier jour de l'attentat compte juste sur les 10% environ de claims sur l'islam. J'imagine, je fais l'hypothèse, qu'après ces 7 jours-ci, quand l'émotion va tomber et des voix peut-être plus critiques pourraient se développer, on aura aussi une discussion par rapport aux discriminations, au racisme, à la rapport de la laïcité aussi avec l'islam, etc. C'est tout. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très très intéressant, notamment pour ce que vous nous expliquez de la méthodologie et de la finesse et de la tentative de réflexivité sur les catégories. Alors bon, je sais que vous n'en êtes pas encore à, je comprends bien que vous n'en êtes pas encore à la phase des conclusions, hein, que c'est une question de progression du travail, mais quand même, on a quand même un peu envie de vous demander. Déjà, si vous commencez à voir des éléments, disons, de choix, je sais pas, tactique, c'est peut-être un mot trop fort, mais quand même, surtout dans cette période des 7 jours, est-ce qu'il n'y a pas une période tout à fait particulière? Est-ce que vous avez quelque chose sur le discours des journaux, justement, sur l'immédiat après? C'est-à-dire l'effet d'une part de choc et puis le fait qu'il est difficile de donner des interprétations immédiates. Est-ce qu'il y a une forme de retrait, de temporisation de cet ordre?
Je peux?
Oui.
Et justement, ça c'est quelque chose qu'on fait, c'est de comparer les 7 premiers jours, c'est-à-dire après les attentats, avec les 7 premiers jours, un mois après. Voilà. Mais ça, vu que je n'avais pas les résultats, je ne pouvais pas vous dire. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi voir le fait que nous, on travaille sur un projet comparatif européen. C'est-à-dire que, malheureusement, on n'aura pas une image très complète des journaux français. Parce que le Monde, à mon avis, il ne peut pas représenter tous les débats publics en France. Mais c'est-à-dire que nous, si vous voulez, l'axe sera plutôt pour voir comment le débat public se déroule en Europe après les attentats. Alors, un projet comparatif temporel, comme je vous disais, en comparant début janvier, fin janvier, mais aussi géographique, c'est-à-dire France et les autres pays européens. Et dans la temporalité dont vous parlez, on va aussi comparer les débats publics qui a eu lieu depuis 2010 jusqu'à 2014. C'est-à-dire que là, on est à cette phase-là. On va voir comment les débats sur ces sujets-là se déroulaient. Pour cela, j'ai quelques résultats préliminaires en vous disant que, par exemple, en 2010, Le Monde parle beaucoup du Danemark. Alors, on a beaucoup de choses qui se passent au Danemark apparemment que moi je ne connaissais pas. Par exemple, quelques attentats de meurtre d'un journaliste de Jyllands-Posten par un immigrant somalien, etc. Voilà, ça c'est les sujets sur les caricatures que Le Monde nous donne en 2010.
Une question qui n'a pas de rapport direct avec votre corpus, encore que, puisque vous avez quand même repris cette expression. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression islam radical? Quand elle a commencé à se répandre, et etc. Est-ce qu'il y a eu des travaux là-dessus? Bah, moi, dans mon esprit, je pense qu'elle vient de Marine Le Pen, mais je n'en suis pas sûr et j'aimerais pouvoir en être certain. Voilà.
Et moi, je ne suis pas sûr non plus. Oui, ça, c'est une hypothèse pour Marine Le Pen, mais j'imagine qu'à partir des années 70 et à partir de la révolution en Iran, on pourrait commencer déjà à parler d'un islam radical. Déjà, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions du voile, par exemple. Déjà, la question du voile commence à émerger à la fin des années 70. Oui, ça c'est très intéressant. Il faut vraiment voir. Et
en fait, les premières, enfin ce que j'ai vu en tout cas dans la presse, c'est que c'est apparu lors des attentats du FIS et du GIA en France, et même des propos des journalistes pour expliciter la guerre civile algérienne.
Ah, d'accord.
Fin des années 80, à partir de 88. D'accord. À partir des premières bribes de contestation islamiste en Algérie.
D'accord, très intéressant, merci. Juste pour nuancer un peu les propos, quand on dit islam radical, c'est une catégorie que c'est nous qu'on construit aussi, dans le sens où, voilà, c'est dans laquelle toutes les catégories sont construites par nous, oui, dans laquelle on met aussi islamisme radical ou islamisme. Vous voyez ce que je veux dire ?
Non. Un point. Dans votre étude qui est européenne, est-ce que vous étudiez aussi justement
oui,
les décalages
la traduction,
d'un contexte
ouais.
linguistique à l'autre ? Parce que les expressions, elles se promènent
oui, oui, oui.
d'une langue à l'autre, elles ne sont pas exactement identiques.
Oui, justement. Ouais.
Elles ne désignent pas la même chose.
Oui, non, en fait, c'était juste pour préciser cette historicisation, puisque je commence ma recherche en 89. Donc, ah. En effet, les premiers paradigmes, c'est l'iranien, mais ah. il reste étranger. Et quand ça s'approche avec l'Algérie, là naît ce terme de islam radical, d'accord. plus concernant la France. Et je profite alors pour poser en fait ces deux remarques, des questions, je ne sais plus. D'abord, vous avez dit que c'est un projet européen. Vous avez analysé uniquement Le Monde. Est-ce qu'il y en a d'autres qui analysent les autres journaux ?
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Moi, je travaille sur Le Monde et les autres collègues, ils travaillent sur les autres pays.
Mais en France ? Uniquement
non.
Le Monde.
Non, non. Ah oui, en France, que Le Monde.
D'accord.
Oui, oui, oui.
Parce que j'analyse beaucoup aussi, mon corpus, c'est presque uniquement des presses. Et j'ai des 89 à 2010. J'ai l'impression que Libération, il se démarque de tous les autres, qu'il donne beaucoup plus la voix dans mes affaires de voile aux jeunes filles, aux femmes en burqa, que tous les autres journaux. Donc d'accord. vous avez soulevé le même problème par rapport à la voix des femmes. Dans mon cas, c'est encore plus délicat parce qu'elles sont protagonistes de ces affaires et elles ne sont pas là. Le seul journal à donner la voix à ces protagonistes, c'est les Libérations. Puis...
Est-ce que juste, je peux faire... Ah, pardon.
Ouais. Puis juste une petite nuance. Vous dites attaque verbale et attaque physique. Je vois très bien ce que vous voulez dire par là. Mais depuis une perspective... en sémiotique, en discours, etc. Je dirais que l'attaque verbale, c'est aussi physique, c'est aussi une attaque à l'honneur, à la reconnaissance et tout ça. Donc, les deux sont vraiment imbriqués. C'est juste...
Alors, par rapport à la libération, oui, c'est très, très intéressant. Mais je pense qu'on voudrait plutôt... prendre des journaux, ce que j'appelle journal de référence, pas seulement dans le contexte national, mais aussi dans le contexte transnational. En fait, ce qu'on voit, c'est que Le Monde, il est pas mal reproduit dans les autres journaux européens aussi. Parce que justement, il a cette image symbolique, pas commerciale, parce qu'il n'est pas le premier journal commercial, par rapport à la Libération, qui est quand même, il a les stigmates des journaux de gauche des années 70, etc., ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, on le sait, mais voilà, c'est aussi une question de reconnaissance au niveau européen.
Merci. Je voudrais revenir sur c'est proche d'une question que j'ai posée tout à l'heure, mais sur le terme d'islamophobie que vous avez employé, est-ce qu'on peut le constituer comme une catégorie scientifique dans la mesure où il est en débat, où il paraît comme un terme indigène, où certains disent que ce serait un terme inventé en Iran pour produire un équivalent de l'antisémitisme, l'antisémitisme étant supposé être un argumentaire sioniste, entre guillemets, qui permet une place spécifique dans l'espace public. Donc c'est un terme qui est un objet politique extrêmement sensible et délicat. Pourquoi parler d'islamophobie comme catégorie et pas de racisme ? Parce que c'est extrêmement compliqué quand même, cette notion. C'est rentré dans un camp que de l'employé, semble-t-il.
Non, parce que l'islamophobie, c'est une catégorie analytique. C'est un outil sociologique utilisé pas seulement par les chercheurs étrangers, mais aussi par des chercheurs français. Je vous renvoie au livre « Sociologie de l'islamophobie » d'Abdelali Hajjad, par exemple, de Marwan Mohamed. C'est aussi, si vous voulez, une catégorie politique parce qu'elle est utilisée en tant que telle par les acteurs politiques qui revendiquent cette identité. Alors moi, personnellement, je ne vois aucune raison de nier une réalité sociale pour employer d'autres termes. Et je pense que si on met l'islamophobie, si on le met dans la même catégorie que racisme, on perd quelques nuances qui font la catégorie d'islamophobie spécifique par rapport aux autres. D'ailleurs, on ne parle pas seulement de l'islamophobie, mais aussi d'antisémitisme. C'est aussi une autre catégorie qu'on emploie.
Ce n'est pas un mot qui correspondrait à une stratégie d'acteur ?
L'islamophobie ? Comme toute identité politique. Toutes les identités politiques sont employées par les acteurs, plus ou moins stratégiquement, pour avancer leur cause. J'ai travaillé aussi sur le mouvement LGBT, c'est aussi des stratégies, si vous voulez, des acteurs, de nommer leur identité.
Vous comprenez toutes les catégories des acteurs ?
Non. Justement, je vous dis, je reprends des outils analytiques qui existent dans la sociologie contemporaine, en France et à l'étranger, mais si vous voulez, je peux aller ma réflexion au-delà de ça, en vous disant que c'est aussi une catégorie utilisée par les acteurs.
Thank you very much for your paper. Since my French is not good enough to follow the discussion, this might have been up before, but I take the liberty of asking it anyway. Two things. I think what you're finding in this way that the media quite recently has started to distinguish between different parts of Islam is a new pattern that we're seeing, and I think we're seeing it across Europe. It is also happening, as I see it at least, in Sweden, perhaps also in Norway and Denmark. Secondly, I think your idea about the kind of self-referentiation among journalists, that journalists were your main group, in a way, that they were referred to and used as sources, is a very interesting trait or characteristics. And I think we could interpret this in a way, I think it's happening in other areas, politics, for example, that we perhaps interpret this as a part of mediatization. Again, how the media is constructing a kind of their own sphere, their own institution in which they refer to each other's. Mm-hmm. And it would be really interesting with your material to see who are these journalists, as you're looking at, what are the characteristics of them? I like the fact that you're focusing on gender, but also perhaps if you could see their training, how long have they been working, where do they come from, etc., so that we can find out a little bit of what is this new kind of authority expert group that is being created through what I would see as processes of a heightened mediatization.
This is an extremely interesting remark, and thank you very much for that. And unfortunately, it's not my own project to do whatever I would like to do, but what we call sociology of journalism, this is something that interests me. Also, if we take into account that in France in particular, I don't know how it's in Sweden, but many journalists of legitimate newspapers such as Le Monde write their own books as well. So Jean Birnbaum that I mentioned before, he recently published also a book on Islam, for instance. So it means it's on...
something else, it's not on Islam.
Yeah, sorry. But I mean, they write books, so they intervene in the public sphere, not only through the media, in their own media, but also through another channel, let's say.
Une toute dernière question, si vous voulez. Il va falloir qu'on passe quand même à l'exposé suivant, monsieur. On prend encore cette question, Lola. C'est
Oh, sorry for this. Thank you very much for the paper. I also followed it mostly in writing, as my French is a bit limited. And it's a very complex and structured paper, and I'd like to focus on the most important message that I should bring home. So if you could highlight perhaps what's the most important finding. Because reading the paper to me, and please refute if this is the wrong reading one of the most important issues which sticks out from the text is the relative lack of Islamic spokespersons, imams, intellectuals, religious leaders, especially of moderate Islam. And I think it's very important for the non-Islamic majority audience, because I often find remarks that, hey, why is it that they do not condemn acts of violence?
Okay, yes, you're right. This is something that we also found. So maybe this was the case in Denmark, this was also the case in France. So you had other kind of actors, not religious actors necessarily, but political actors usually, who would say, why do not Muslims don't condemn the attacks? Okay? So indeed, for me, it's another good distinction is this distinction between the radical Islam and the moderate Islam. So as our colleague said, this new categorizations of Islam that media, maybe also politicians, proceed to, and also the self-referentiality of media. So it means that on Islam, it was journalists who spoke on Islam. So the expertise on Islam becomes a mediatic issue as well. Yes, I think this would be, and the gender issue. I was struck by the gender issue.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc, Yael Hirsch qui va nous parler de Charlie Hebdo encore une fois. Reproduire ou non la couverture du Charlie Hebdo du 14 janvier 2015, les médias entre liberté d'expression et volonté de ménager les croyances.
Hello, so I'm very glad to be here. I've been asked to speak in English, although my mother tongue is French, so sorry for the accent, but maybe it's easier for everyone to follow and for the translation after. I understood well. I want to thank Anaël. Oh, yes. I want to thank Anaël, Anne and Lola, and we'll present this problem of the cover of the Charlie Hebdo of the 14th of January 2015. My research in my doctorate was not on that topic, of course. It just stems from a very personal question I faced. a very personal question I faced. I'm a scholar, but I'm also a journalist. And as a journalist, I was very moved by what happened. And I had absolutely no problem using and reproducing in my medium, which is toutelaculture.com, the cover of the Charlie Hebdo of the 14th of January 2015, which has again the prophet on it, as you know, with a very tender prophet, with crying, saying I am Charlie, and saying everything is forgiven. So, but as a journalist, the question never occurred. But 6 months later, when I started classes again at Sciences Po, where I teach, we're teaching a class on new media and their impact on the public sphere and democracy, a very generic class, with a colleague who is a philosopher. And suddenly, I didn't know what to do. I didn't know whether I should really just put the cover in my PowerPoint presentation or not. I started really thinking about it without really having neither the legal answer, although, you know, the law, I thought I didn't risk much, but also I didn't want to risk offend any person who would be Muslim, believer, and who would feel offended by the fact that I, you know, represent the cover, which represents the prophet again. So in the end, what I did is just take the, you know, take the actual Charlie Hebdo issue and bring it to class. But I thought this was, I don't know if any of you thought of it or had this problem, but I thought it was a very complicated move for something that should be simple while weighing, you know, freedom of expression, the press, and you know, also being very respectful of everyone's beliefs in a classroom where people are forced to listen to you. So that's how, you know, I decided when I heard of today to just try and understand this problem a bit better, using material for where I come from. I come from political theory. My thesis was in political theory, so I didn't study law, so please excuse me in advance if I misinterpret or if I'm a bit too quick when quoting some important legal pieces. So the question is, what are we to do with this very tender, very strong cover as journalists, as teachers, as public figures, and how, what's his place in the public sphere? As I said, I think it's, the question is mostly ethical and political. Here, two main freedom come to, you know, into a kind of a fight: freedom of expression, on the one hand, as you know, "Je suis Charlie" is supposed, has very meaning, various meanings, and has been criticized for having so many meanings. But like the one that everyone probably agrees on is defending the freedom of expression of the press, and the second freedom or liberty, important liberty, is freedom of religion and freedom of you know, of having its own belief. What I will do today is see how the media reacted, because right away, some media decided to display the cover, and others decided, or didn't decide actually. Some media decided there were other subjects they should, you know, discuss and put into image in their edition. So, but who, I will try to see which, you know, which media displayed the cover, which didn't, and what explanation were given. And then maybe go back to political theory to see how this struggle between freedom of expression and freedom of religion, you know, can be maybe better understood in some kind of, in the context. So when the issue of the 14th of January was finally published, it was called the edition of the survivors, and it was very emotional. There was a press conference, and already at the press conference, Luz, the cartoonist who drew surviving cartoonist who drew the Everything Is Forgiven cartoon, said several things during this press conference that are important. First of all, he said that he was crying, lots of emotion, and he said that when he came out with this very cartoon, he knew for one that Charlie would live. Charlie would survive, and there would be more Charlie Hebdo issues, which is a bit dramatic like that, but which says a lot, the idea that, you know, Charlie for what it is, and with its irreverent editorial line, would keep going on instead, despite what, you know, the violence that happened. The second thing that he said, that and explained that Charlie would survive, because he said it looked, it was also this very image looked like Charlie. It was like Charlie, meaning not bearing too much symbol, and being at the same time, is a bit contradictory. He said that he was at the same time very simple, like the exact quote is like, you know, children have the right to draw, and the cartoonist kept drawing. So this very simplistic idea, and also the idea that he didn't have to really explain why he came up with this prophet character again, because we said that clever people would understand and make their own explanation. So in between the two. And the first thing he said, which is interesting for us now, is like, yes, it is Muhammad. Again, but then he added, "I'm sorry if we've drawn him yet again. But the Muhammad we've drawn is just a little guy who is crying." So you have in the sentence at the same time, it is Muhammad. We persist in our identity, and it's the same kind of a cartoon character we've been using in the last years, and that had, you know, that brought to us this terrible act of violence. But at the same time, it is he apologizes almost for it. It's a kind of explanation, if a justification, if not explanation. And then at the same time, it is very tender. And the truth is that it is very tender. And in the previous trial that hit Charlie when, after reproducing the in 2006 the cartoons from the Julian Poston, the concern whether the prophet is or is not portrayed in a nice way or not in a nice way was also an issue. It's not only just portraying the prophet, which is already offensive for some Muslim believers. It's also in which position and in which attitude, and especially at the time in 2000, when the trial in 2006, the reproduced cartoons were not the what was really at stake for Charlie in front of the court. Some other cartoons or texts were not really at stake. It was one of the cartoons with the which was very violent, with the prophet being himself violent, that was very much more discussed. So the tenderness is important. But yet, it was tender, explained, Charlie persisting, freedom of expression, and yet, the day after, in the media, not all the media decided to reproduce it. Some of them didn't. Once, interesting, so it's not going to be like the full list and the whole list in the whole world, I'm sorry. I'll just give you a few ideas. What's interesting is that the best article I found to give a good account of it is on BuzzFeed, which I think, to my concern of new media, says a lot about what's at stake between new, old media, and I don't know, like maybe in the previous presentation, something we can, I've been thinking a lot, like how do, you know, social media and new media come into religion. So, but yeah, it wasn't BuzzFeed that I found the best source, but I found it somewhere else. So, quickly, for most Muslim, for all Muslim countries, it was forbidden, and it was only in Turkey that a newspaper, and I'm sorry if I mispronounce the name, called Cum Hurriyet, published the cover, and two of the columnists risked up to 4.5 years of jail for doing that. Interesting enough is that I could not really find if they were condemned or not very easily, so I don't know. In France, the cover was published massively without so many questions. Apparently, only West France didn't publish it, but it's not in its habit to publish the cover of special editions. And what's interesting is who's justified it or not, and some newspaper, like Le Monde especially, decided to justify printing the cover of the Survivor's edition of Charlie Hebdo in its pages. So the director of the editing team said that it was an important document, bringing a very peaceful message. It's not injurious, it's not violent, and it adds, and we defend our right to publish any drawing that's not an insult. You see, it's still the complexity between the freedom of expression and not being not insulting anyone, which is probably the core of the problem. So France was published massively. What is interesting in Europe is the case of Great Britain. In the UK, only The Guardian and The Independent, in the main newspaper, published it as it is, but blurred it a little. And The Guardian, who paradoxically helped Charlie Hebdo with money and some fundings, carried the warning with the actual image and justified the fact that it published such an image that can shock some people. What's paradoxical is that in Great Britain there is no law against blasphemy. It was not since 2008, actually. And so it's really like a concern, an ethical concern, and an act of responsibility from the journalists, a very private initiative, if you want. In Germany, the technique is a bit different. So you will find it in the Bild, so the tabloids. You could find it in the communist newspaper Neues Deutschland, and in some regional daily newspaper like Die Saarbrücker Zeitung. But most of the main national newspaper decided to cover other subjects. So especially a big meeting in Berlin in sympathy with Charlie Hebdo, but the pictures were about that and not about the headlines, I mean, the drawing of the Charlie Hebdo edition. In El País, in Spain, El País published it, and you could download the pages on the website. And La Razón published it. Oh, in Germany, Reuters didn't publish it either. And in contrast with the UK, the US are very interesting because most of the national newspaper published the Charlie Hebdo cover without so much justification, which is interesting. So CBS News, the Wall Street Journal, the Los Angeles Times, the Washington Post, the Huffington Post, Fox News, the New York Post, and only the New York Times, I mean, and the New York Times published it, but it was one of the newspapers that gave, and the New York Times didn't publish it, and there was a whole debate. The New York Times didn't publish it, and there was a whole debate about it. And it was very much attacked by its readers for not publishing it, with a strong tradition in the U.S. of, although it's supposed to be very politically correct country, it has a strong tradition for the freedom of the press, and the readers of the New York Times were very disappointed. The newspaper decided not to publish it, so there is a whole debate about that. In some countries, one has to add, it's not only legal concerns and not only ethical concerns or concerns of political correctness that were important. In Denmark, as they said, the Jyllands Posten didn't publish it because they said they would not publish any caricatures of the prophet anymore after 2005. Fear is also like. There are a few reasons for not publishing this cover, and fear is also a reason that I shouldn't totally forget, entrapped in my conflict between freedom of liberty and freedom of the press. What's interesting is the context. The context is important, and I think Charlie Hebdo played itself an important role in a new way of picturing freedom, this struggle between freedom and expression and freedom of religious belief. Because the blasphemy was something that almost disappeared from European society, something that was not really much a concern until the end of the 1980s, probably, and when Salman Rushdie published the Satanical Verset, and there was and was threatened for that. And then suddenly blasphemy came into the public scene again, and blasphemy was a word that was used, that is still used, and that is. I think, at the cornerstone of the debate between freedom of expression and freedom of religion right now. But it's strange to think that probably 40 years ago, it was not so important anymore. And Charlie Hebdo plays an important role in that because it is at this, I mean, even if it is in the last years at the center of many, many debates around blasphemy, especially after deciding with François in France to publish the caricatures from the Jyllands Posten in 2005, and there was a huge trial in France that created lots of debates. But it published caricatures of the prophet again in 2007, 2011, with an infamous edition called Sharia Hebdo, that also brought up some trial to Charlie. And in 2012, too, Mohammed, A Star Is Born was the cover on Mohammed. And although there is a very interesting article by Jean-François Mignot and Céline Goffet published in Le Monde explaining that Islam was not the main concern of the drawings of Charlie Hebdo. And if you're talking about blasphemy or offending people for their religious beliefs, Islam is not the first concern. Political subjects are firstly concerned, and then if you talk about religious matters, it's more Christianity and then Islam and then Judaism that are concerned. what happened the 7th of January changed again, I think, this idea of what blasphemy was, especially in the law. It is strange because suddenly some countries around the world or some regions of the world asked themselves, would we have published? Could we have something like Charlie Hebdo exist in our country? And so the UK, which abolished the law on blasphemy, law on blasphemies that were not enforced for years or barely enforced for years, were suddenly put into question, very much so. So, any question? I hear some. No.
Yeah, no, I just wanted to. In Britain, the blasphemy law was again only concerning attack against Anglican.
Anglican Church, yes. So it's abolished in 2008, so a bit before, but you find very funny articles about political correctness in Britain, like, you know, mocking and making fun of the fact that they didn't publish the cover. In Norway, there still was a blasphemy law, which was not enforced since 1933. There was no prosecution since then. But after the 7th of January, suddenly there is a whole debate, and they decided to give up and to scrap that law. In Australia, there was a huge debate because they have a racial discrimination act that's very strong, and there are lots of discussion in the newspaper whether Charlie could have been published in Australia, and in Alsace. Which is still under Alsace-Moselle, which is still under the Concordat. there was, although after 2006, already a few associations tried to sue Charlie Hebdo in Alsace-Moselle to try and win in the court. After the 7th of January, there was also strong debates about giving up on blasphemy law. What's going on with blasphemy is interesting because I think it is something already that has really no real definition. It had definitions in national European laws, but to adapt it to after a century or more of not really real cases of trials, it's difficult to adapt it. Even in some countries that still have it. I have the list. I will probably skip it because otherwise I won't have the time. But it's a good sign that it's difficult to give a good definition to blasphemy is the fact that the European law has no definition of it. And when trying to find the definition for it, doesn't really succeed in finding one and says, refers to national laws. Blasphemy is interesting also because I think the way the European law takes it over, and it starts in 1994 in the Otto Preminger Institute vs Austria you call it, not law, I don't know the word in English. Anyway, so sorry. The story was a private association which wanted to project a movie that was supposed to be shocking under Article 10 of European of the Article 10 of the European Rights Convention. And Europe decided that the attackant were right to ask not for the projection not to happen because it was gratuitously offensive, which goes back to blasphemy. I think that's probably what's at core with blasphemy. It's like it's freely offensive. It's like making a free an offensive to the beliefs of people that's also that doesn't foster public debate and public speech and freedom of speech. There is this division here that's important. Which brings the idea when we're thinking of blasphemy that comes back into our minds and into our opens up a whole imaginary again, this idea of the gratuity of the offense, by attacking beliefs of people, I think points to something that's important in the opposition between the freedom of religion and the freedom of expression, meaning should the freedom of expression be active? What's freedom of expression? Is just making caricature? Is just mocking? Is just the freedom of arts and visual arts? But that's already probably fostering public debate. Where does it start? And where does the free attack start? And I think probably the cornerstone is here. The problem is that if freedom of expression has to be positively defined, if it has to be something that contributes to deliberation, contributes to public speech, then what do you do of art? What do you do of previous, you know, Charlie Hebdo edition and what Charlie Hebdo represents? This idea that freedom of expression has to be active, has to be positive, is sometimes a little, I mean, would work and it would be the difference. But at the same time, you would limitate a lot the freedom of expression, I think. And there is a very interesting research of Denis Ramon, which starts with pornography, actually, which is nothing to do with religious belief. But he brings back the idea that in the Article 11 of the Right of Man, the original one, and in the First Amendment of the American Constitution, people don't speak of freedom of expression, but they speak of freedom of speech and freedom of the press, which has this very active meaning, feeding the public debate, the press and the speech. Freedom of expression is broader, probably, than just this positive meaning. And, you know, probably we have to keep a negative, a very defensive vision. If we have to think of a freedom of expression that has to be compatible with freedom of religion, keeping a negative definition is important, because if we just have an active positive one, it will be very narrow. It will be everything educational, everything, and also very debatable. What brings food to the public debate? Can we decide in advance? I don't know. So it's already written in many laws. 5 minutes. Okay. The freedom of expression that is negative cannot be driven against individual. It's in defamation and insult, and I think that's a very important point in the difficulty of settling between freedom of belief and or religious belief and freedom of expression, is the idea that it's easy to defend an individual, but who is the group that recognizes itself offended in the representation of the prophet? It's much more difficult than just defending an individual which is, you know, directly offended, or a group of persons that's directly defined. So negatively, cannot be driven against individuals, cannot be calling to hatred, cannot be calling to violence because of public order, and cannot be imposed upon minor minds, so defending the people under 18. This is a negative definition. Trying to come to conclusion, after confronting this freedom of religion and freedom of not offending, I'm sorry, I'm a bit lost. So I think this is the cornerstone, trying to keep a negative definition of the freedom of speech that's very difficult to define. C'est passé pour finir, je vais essayer de finir en 5 minutes. C'est en réfléchissant à cette question du blasphème, à cette question de comment, en fait, c'est insoluble, parce que quand on regarde, notamment, il y a un grand document de la Commission de Venise qui réfléchit au droit constitutionnel européen, qui essaye de trancher sur sur cette question du blasphème et cette question de comment faire aller ensemble la liberté d'expression et la liberté de respecter, enfin, et le respect des croyances religieuses, ils tranchent pas. Et ils disent, ah mais c'est important l'un, c'est important l'autre, et il faut vraiment promouvoir le débat démocratique. Et ils tranchent pas, Et plus j'avançais, plus il y a quelque chose de très émotionnel, il y a quelque chose de glissant aussi. Et c'est vrai que il y a quelque chose de glissant parce que ce qui est religieux devient ethnique, devient communautaire. Et quand on regarde la loi française de 1881, qui protège vraiment et qui est dans cette définition négative de la liberté d'expression qui est très claire, il est très clair, c'est des individus, des groupes d'individus qui doivent être directement injuriés ou offensés, c'est quelque chose de le plus libéral possible. Petit à petit, le décret Marchandeau, la loi Pleven notamment la loi Guesso, la loi mémorielle, qui rajoute un alinéa et pénalise le négationnisme, amène des considérations aussi d'histoire et de race. Et du coup, on comprend que d'ailleurs pas forcément tous musulmans, certains citoyens se ont l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures quand on dit « Charlie Hebdo a le droit de publier des caricatures terribles ». Et d'ailleurs, quand Dieudonné dit « je suis Charlie Koulibaly », alors tout d'un coup, c'est un crime, c'est une injure antisémite. Et en réfléchissant à ça, moi qui ne m'étais jamais posé la question, je trouvais ça très bien qu'il y ait des lois mémorielles qui empêchent le négationnisme. Après Carpentras, c'est arrivé. Effectivement, ça me semblait important comme quelque chose appartenant à la Constitution, le crime contre l'humanité, quelque chose de... Voilà, de... En y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, les gens ne sont pas en sucre, quoi. Ni les musulmans qui pourraient être très croyants, très observants. Et finalement, en limitant et en légiférant, mais les gens que j'ai lus sur le blasphème disent la même chose, en légiférant et en limitant la liberté d'expression, et je suis pas pour la liberté d'expression à tout craint, etc., mais en fait, on limite aussi le débat public et la richesse du débat public. Et en fait, si des choses horribles se disent sur la Shoah, ou si des choses horribles et des images horribles se disent sur le pape ou sur le prophète, peut-être, mais c'est mon interprétation personnelle à la suite de gens très importants, peut-être faut-il faire confiance aux forces démocratiques et aux différentes associations, aux différents individus, à mes étudiants dans la classe, à qui j'imposerai la une d'un Charlie Hebdo plutôt tendre, mais qui pourrait les choquer, pour lever la main, faire du débat, me dire qu'ils sont pas d'accord, et créer une contre-force et un débat. Voilà, c'était à peu près ça que je voulais dire. Désolée de m'être emmêlée les pinceaux absolument terriblement.
Merci beaucoup. Peut-être que votre émotion est proportionnelle à l'importance de la question que vous avez posée dans votre exposé. Alors, je voudrais quand même revenir sur un ou deux points, et je crois que c'est une discussion qu'il faut... Je ne sais pas s'il y a encore des juristes dans la salle, mais là aussi, je crois que c'est une discussion qu'il faut avoir avec des juristes. Bon, d'abord, je rappellerai que la démocratie, c'est une négociation permanente entre différents ordres de liberté qui, à un moment ou à un autre, rentrent en conflit les unes avec les autres, et que je crois que quand la commission de Venise, par exemple, ne veut pas figer la chose, c'est parce que c'est ça la démocratie, c'est cette négociation permanente. La démocratie, bon, c'est un régime qui est à la fois très, très fortement cadré, mais qui, en même temps, a besoin d'une véritable souplesse, et je crois que le terme de négociation est bon. Par ailleurs, il me semble aussi qu'il y a une chose importante dans la loi française, c'est la différence qui est faite, effectivement, entre ce que la liberté d'expression permet, l'injure, la caricature, des choses désagréables pour ceux qui en font l'objet, et puis des choses qui ressortent de l'incitation à la haine. Et quand il y a crime, c'est aussi le problème de l'atteinte à la personne. Et puis, il y a un point alors, sur lequel je voulais vous interroger. Je trouve intéressant, stimulant, si j'ai bien compris, une sorte d'analogie que vous faites entre la question du blasphème et la question actuelle. Vous avez appelé ça dans votre titre « Ménager les croyances ». Mais en même temps, en tant qu'historienne, il me semble que ce sont deux choses vraiment très très différentes, parce qu'avec le blasphème, on n'est pas du tout, l'idée n'est pas du tout de ménager qui que ce soit. Le blasphème, ça porte sur les questions de vérité religieuse, c'est ça le blasphème, on est dans le registre de la vérité. Alors que là, avec la volonté de ménager les croyances, on est dans un tout autre registre qui est celui de la subjectivité. Et qui est celui de ne pas choquer, de ne pas blesser des personnes. c'est pas du même ordre.
Si je puis, je crois que quand nous on reprend la notion de BSM, il y a deux choses dans le BSM. Non seulement, je crois que même historiquement, il y a non seulement une attaque à une vérité qui à l'époque est intolérablement mise en cause, mais en même temps, il y a aussi une attaque à l'intégrité de la société. En remettant en cause cette vérité, il y a une attaque au lien social. Et je pense que si nous, on reprend la notion de blasphème qui est utilisée par des fondamentalistes qui accusent de blasphème certaines personnes, je pense que si on le reprend à notre compte, c'est avec ce sens de est-ce qu'on est en train de casser du lien social, est-ce qu'on est en train de se séparer d'une partie de la population, si je puis me permettre. Voilà, il me semble qu'il y a les deux. Et qu'il y a un truc, en tout cas dans les esprits, dans les imaginations, dans les représentations, qui revient du blasphème. Le mot blasphème était plus tellement présent, enfin en tout cas dans les quelques études que j'ai pu lire, il était plus tellement présent, on en reparle, on l'enlève du droit, on le remet ou pas dans le droit, il y a quelque chose d'un peu archaïque qui revient. Est-ce que c'est seulement archaïque ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus?
Je crois que vous désignez un objet important sur lequel effectivement il faudrait travailler, mais voilà, il faut travailler là-dessus et c'est vrai que je pense qu'il faut le considérer vraiment avec beaucoup de prudence et de distance. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir bien d'autres questions et remarques que les miennes.
Thank you very much for the great presentation, and I really appreciated the way you presented this field between two opposing principles, freedom of speech and freedom of press on the one hand, and freedom of religion on the other hand, or freedom from being offended. But there was one point when you, in the international review, when you mentioned Jyllands Posten and Denmark, I think you mentioned that perhaps in their decision of not republishing Charlie Hebdo front page, fear was a factor. And I would like to focus on this, because I also read reports about Jyllands Posten and other European and global newspapers. And I would like to highlight this, because I think it's a matter of principle. Because in that case, we are not in the field between freedom of the two freedoms that we discussed, but then it becomes a triangle. It means that the issue is actually fear from violence, and in that way violence reaches its goal. I'd like to remind that in Denmark, 1 month after Charlie Hebdo, there was another terrorist attack actually against a journalism seminar against blasphemy, or about blasphemy, which was just like our session here, which was machine gunned by a terrorist, two people killed, five police officers wounded. So in this, you know, context, Jyllands Posten's decision not to republish, or other Danish newspapers' decision not to republish, was motivated by fear. And if this is so, I can sense there a grave challenge or danger to media freedom in Europe, and that's a grave matter. Media freedom in Europe.
Thank you very much. I have nothing to add. I, of course, I wanted to mention the 14th of February, and I'm sorry, I didn't.
My question.
Well, I understand the question. Yes.
Did you find this reference to fear in the editorial decisions in other contexts?
It could be a temporary fear too, hopefully. Okay. Like the question of the duration of the fear is also important. It could be caution for a while before, or I don't know exactly, but yeah, you're right, it's a third member that's very important. Maybe we can all like stop publishing any, well, yeah, the third solution is a very important one. Thank you very much.
Merci. Je voulais signaler qu'il y a un numéro de la revue Communication et Langage qui doit paraître bientôt ou qui est paru ces jours-ci sur le blasphème, dirigé par Frédéric Lambert. Et il y a un très bon article sur la question que vous avez traitée, coécrit par le sociologue suisse Philippe Gonzalez, sur cette question-là, qui a abouti à des conclusions un peu différentes. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'affaire de blasphème depuis le 19e siècle. J'étais un petit peu surpris parce qu'il y a Isabelle Saint-Martin a rappelé que les catholiques sont montés au créneau sur une pièce de théâtre, sur un film. L'œuvre Peace Christ. Je termine, si vous permettez. L'œuvre Peace Christ d'Andrés Serrano a été brisée à Avignon il y a quelques années. Donc, et ce n'est pas seulement dans l'espace musulman. Il y a aussi des questions catholiques. Tout dernier point. C'est anecdotique, mais vous avez parlé de respect des croyances. Est-ce que quand on parle de religion, il faut parler de croyances ? Est-ce que croyance, c'est pas un terme qui désigne le christianisme ou certains ? Est-ce que dans l'islam, il s'agit de croyances ou de règles ? Est-ce que dans le judaïsme, il s'agit de lois ou de croyances ? Je sais pas si croyance est le terme approprié. Ou alors c'est au sens philosophique, comme je crois que la séance va se terminer, et peut-être pas. Mais est-ce qu'il s'agit de croyances au sens religieux ? J'en suis pas certain. Merci.
Merci beaucoup. Oui, absolument, il y a plein. Et il y a plusieurs cas de blasphème, mais beaucoup depuis les années 80, c'est ce que je disais. Il y a quelques cas encore au XXe siècle, mais c'est quelque chose qui est en voie de disparition avant. Je me réfère à des sources secondaires et j'ai pas... Et des sources secondaires, encore une fois, j'ai fait une recherche peut-être trop rapide, j'ai dû lire 5 livres sur le blasphème. C'est continu, très bien. Mais voilà, mais il y en a beaucoup depuis les années 80 et... Chez toute la culture, on passe beaucoup de temps entre Castellucci, le Peace Christ, etc. Voilà. Alors sur les croyances, c'est un peu comme tout est pardonné, quoi. Tout est pardonné. Ça peut paraître. Non, je me disais en entendant tout est pardonné, je me suis demandé. J'ai pas eu le temps d'aller vraiment faire la recherche si c'était vraiment le pardon était quelque chose aussi en partage aussi à l'islam, enfin voilà, et si c'était quelque chose de, c'est une vraie question. Sur les croyances, le fait est que les libres consciences, il faudrait dire, quelque chose comme ça, qui soit plus, il faudrait le formuler de manière plus philosophique, mais comme il s'agit d'individus, c'est le sentiment, la libre pensée, enfin, cette idée, il y a une sphère autour des individus, et elle a et alors est-ce que ça correspond à l'islam? Je ne sais pas, et je sais pas si, de nos points de vue libéral, on saura traiter autrement que ce qui se passe dans le fort intérieur, dans la conscience des individus, ce qui s'y passe, si on saura prendre en compte l'aspect plus juridique de ce qui se passe.
Ça ne s'agit pas forcément de conscience non plus.
De mots d'ordre, mais suivi volontairement par des individus ou pas suivi volontairement par des individus, je sais pas, mais je sais pas si on. Il me semble que le droit s'adresse à des individus et leur liberté de pensée ou d'expression est dans quelque chose qui leur serait propre. Alors j'ai appelé ça une conscience, c'est peut-être beaucoup trop chrétien, il faudrait l'appeler autrement pour être plus philosophique, comme vous me suggérez, vous avez raison. Merci.
En fait, tout à l'heure, vous vous demandiez quelle était la définition du blasphème exactement. Il me semble que, historiquement, du moins en Occident, en Occident chrétien, c'est une atteinte à la divinité ou à ses apparentés, je dirais, pour résumer, ou à la religion. Donc, il y avait blasphème quand il y avait une attaque contre ces objets-là. Mais ce qu'on nous dit, ce que les musulmans ont dit, ils ont dit, nous nous sentons offensés. Et j'ai l'impression qu'on n'entend pas cette requalification de la victime. J'ai l'impression qu'on passe d'un crime avec une victime imaginaire, c'est-à-dire une divinité quelconque ou une religion, à une victime qui est bien réelle, puisque ce sont des personnes qui nous disent, nous sommes offensés. C'est nous qui nous sentons attaqués. Et voilà, j'ai l'impression que dans le débat, ça n'a pas vraiment été pris en compte. Je me trompe peut-être. Tout comme on n'a pas non plus beaucoup entendu les personnes qui sont, ce qu'on appellerait des musulmans du Ramadan ou de l'Aïd, ou même qui ne sont même plus pratiquants et qui pourtant se sont sentis visés aussi. Ou des personnes qui n'ont aucun rapport avec l'islam, et qui ont été gênés par les caricatures. Donc je me demande si est-ce qu'on est vraiment dans une question... Est-ce que derrière cette question apparemment religieuse, il n'y a pas une autre question ?
Merci beaucoup. Alors, il faudrait peut-être faire appel à nouveau à des programmes plus quantitatifs avec des claims et voir qui sont les musulmans, quand ils parlent, comment, dans quel support. Ça, moi et les sources que j'ai pu lire pour réfléchir à cette question, j'ai pas pu recouper. Mais certainement, notamment la présentation juste avant, peut-être ils pourraient vous en dire plus. En revanche, le souci de savoir comment on passe du prophète aux musulmans et quels musulmans sont représentés et quelles associations ont attaqué Charlie en 2005-2006, ça c'est très sourcilleux et en général les sources, enfin les auteurs que j'ai pu lire font très attention et expriment que c'est difficile de savoir dire tous les musulmans sont offensés, c'est compliqué. Quels musulmans, comment, c'est tout le paradoxe de, quand on attaque, d'où ce paradoxe du blasphème, c'est-à-dire attaquer la divinité, passer de l'attaque à la divinité ou à la vérité vers l'attaque des individus, c'est une alchimie, enfin, c'est en tout cas quelque chose de difficile à percevoir comme processus.
C'était pour une affiche de Benetton avec la scène. L'attaque n'avait pas été faite.
C'est pas Benetton, c'est.
Elle avait été faite sur.
Marie de François Charbon.
Je ne parlerai jamais de la population en même temps. Et d'autant
plus. Ça marche, la pub.
Pardon ?
Sur le pression de Loris ?
Oui, c'est ça. Elle avait été interdite pour cette raison-là. Oui, donc il me semble que cette publicité n'avait pas été attaquée comme blasphème. Et je me suis toujours.
Et c'était en quelle année ? Parce que du coup, c'est intéressant.
C'était une publicité de Benetton qui. De Marité François Gerbeau qui reprenait le tableau de Léonard de Vinci de la Seine et à la place des prophètes, il y avait des femmes en tenue légère. Oh, non, en haut, elles étaient. Et il me semble qu'elles étaient légèrement vêtues. Ce qui posait aussi la question de l'image de la femme par la même occasion.
Plus une réflexion générale qu'une question, mais le débat qu'on a pour l'instant me fait penser à cette valeur constitutionnelle, enfin cette notion constitutionnelle dont on parle assez peu, j'ai l'impression, qui est celle du respect des croyances. Enfin, dans l'article 1er de la Constitution, après la République est indivisible, sociale, laïque, démocratique, elle respecte toutes les croyances. On n'en parle jamais de cette. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire respecter toutes les croyances ? Justement, avec ce qu'a souligné monsieur, ce mot est ambigu pour parler du religieux. Moi, je pensais que c'est un assez mauvais mot pour parler du religieux, mais ça fait partie de ces mots auxquels on n'échappe pas, et notamment dans le discours médiatique. Hein, les croyants et les incroyants, c'est une mauvaise dichotomie pour parler de nos objets. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et ensuite, voilà, le respect des croyances. Valeur constitutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça implique ? Est-ce que cette notion constitutionnelle est mobilisée dans des instances, dans des démarches juridiques, comme un ressort juridique ? Je ne sais pas, mais enfin, c'est une question ouverte.
Merci beaucoup, je n'ai évidemment pas de réponse.
Je vous propose que de nous en tenir là et de clore la session, sachant qu'il y a encore demain une journée extrêmement intéressante. Merci à tous les intervenants et merci à vous pour votre attention.